Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
13h06 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi tout de suite avec l'étude du jour et c'est celle de l'ONG Oxfam qui nous apprend que les PDG du CAC 40 gagnent en moyenne 130 fois plus que leurs salariés avec des disparités tout de même puisque la présidente d'Orange ne gagne que entre guillemets 29 fois le salaire moyen de son entreprise contre 1453 fois pour le PDG de Téléperformance.
Entre 2019 et 2022, Estelle, la rémunération des patrons du CAC 40 a augmenté de 27%, soit en moyenne plus de 6,6 millions d'euros, alors que le salaire moyen au sein de ces groupes n'a augmenté que de 9%. Voilà le constat dressé par Oxfam. L'ONG dénonce un système à double vitesse qui accroît l'écart entre patrons et salariés, tout ça dans un contexte où la pauvreté en France est en forte progression et touche plus de 9 millions de personnes. Alors cette situation, elle est d'autant plus incompréhensible que les salariés ont beaucoup perdu en pouvoir d'achat depuis la crise du Covid, commente Oxfam. Alors quelles sont les entreprises qui sont sur le podium dit de l'indécence par l'ONG? En troisième position, Stellantis, dont le PDG Carlos Tavares a gagné 341 fois plus que le salaire moyen de 64 000 euros. Lui a touché 21 millions d'euros. En deuxième place, c'est le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, avec plus de 9 millions d'euros de rémunération, un écart 426 fois plus que le salaire moyen au sein de son groupe. Enfin, en tête, tu l'as dit, Estelle, la société Téléperformance, son PDG qui gagne 1453 fois plus que le salaire moyen de son entreprise, hein, 19 millions pour lui, 13 568 euros pour ses salariés. Alors, est-ce que ce plafonnement verra le jour? On ne sait pas. Il y a un an, il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron s'était dit choqué par ces écarts de salaire. La balle est maintenant dans son camp.
Alors, faut-il plafonner le salaire des patrons? Thierry Moreau.
Alors déjà, on est un peu en train de découvrir le capitalisme et le supercapitalisme. C'est-à-dire qu'on a à la tête de ces entreprises du CAC 40 des gens qui sont arrachés dans le monde entier. Le patron de Stellantis, je rappelle juste que quand il est arrivé, l'entreprise perdait 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle en a gagné 18,6 milliards. Donc, cette performance de passer de moins 5 à plus 18,6, ça se paye. Alors, on peut considérer, je vois Benjamin, évidemment, qui va trouver que c'est beaucoup trop. On a deux leviers. D'abord, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Ça exclut évidemment tous les petits patrons qui, eux, souvent, gagnent moins que leurs employés. Donc évidemment, là, il n'y a même pas de débat. Là, on parle donc des quelques entreprises avec des super salariés à leur tête qui sont des super salariés. On a deux leviers. Réduire l'échelle, effectivement, dire, ben voilà, dans une entreprise, non pas plafonner la rémunération, mais dire, voilà, si vous touchez tant, ben il faut que celui qui est en bas de l'échelle, il gagne un certain prix de façon à ce que le coefficient multiplicateur soit moins important. Ça, c'est une des façons de régler le problème. Parce que sinon, plafonner, on va se retrouver, je rappelle quand même, c'est un marché mondial, et ces PDG s'arrachent dans le monde entier pour des performances économiques parfois exceptionnelles. Aujourd'hui, Stellantis, c'est un bijou. Ouais. C'est devenu un bijou.
Et Orange aussi. Et la PDG d'Orange gagne 29 fois plus que le salaire moyen de ses salariés. Donc, c'est possible.
Donc, on peut, à ce moment-là, réduire l'échelle, augmenter les bas salaires plutôt que de réduire le salaire du patron. Parce que, encore une fois, c'est des talents. Ben, moi, je veux bien qu'on soit tous des économistes de plateau, mais il n'y a personne autour de ce plateau qui serait capable de faire le travail qu'a fait le patron de Stellantis à la tête de cette boîte.
Ça, on entend. Et alors, juste, il y a quand même un petit biais dans l'étude Oxfam, c'est qu'ils prennent, en fait, l'entièreté du salaire. Sachant qu'en fait, dans une rémunération patronale, il y a, en tout cas, sur les PDG du CAC 40, en moyenne, 70% de part variable. C'est-à-dire que cette part, si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, il n'y a pas de part variable.
Et de même, quand les patrons font une connerie et qu'ils sont virés, ils devraient partir sans rien. Évidemment. Et trop souvent, ils partent avec un parachute doré parce que leur contrat prévoit qu'ils partent avec de l'argent. Ça, en revanche, c'est absolument inacceptable.
Est-ce qu'il faudrait, Benjamin Amar, plafonner le salaire des patrons? Allez, alors, certains proposent de 1 à 20, ça paraît... malheureusement, peut-être pour vous, mais peut-être un peu faible, mais au moins passer de 1 à 100, on n'a pas le droit. Ou alors, simplement, là, on voit aussi que les patrons ont été augmentés en 3 ans de 27% contre 9% aux salariés. Est-ce qu'il faudrait, quand un patron s'augmente de 27%, augmenter les salariés mécaniquement de 27%?
Alors, d'abord, sur le débat, quand même, je rappelle que c'est un débat qui commence à revenir comme un marronnier.
C'est pas
bien
mal.
Souvent. Non, mais c'est pas. Sauf qu'il y a derrière. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est. Nous, ce qu'on dit en plateau ou dans les émissions, c'est intéressant. Mais enfin, ce que fait la puissance publique. Je rappelle que, entre-deux-tours, parce que des fois on a l'impression d'avoir une mémoire tampon comme Dory, la copine de Nemo. À l'entre-deux-tours de la présidentielle 2022, vous avez Emmanuel Macron qui réagit au fait que Carlos Tavares a plus 19 milliards, oui. Et il nous fait toute une sérénade en nous disant c'est choquant et excessif, mais peut-être qu'on a une solution si on agit à l'échelle européenne. C'était il y a 2 ans. C'est le débat n'est jamais revenu et c'était pas la première fois qu'il était déjà abordé. Donc moi j'en ai assez de voir ce sujet revenir sans cesse puis disparaître au gré de l'actualité. Donc il s'agirait de poser les solutions. Alors comme ça a été dit un peu précédemment, finalement je pense que si les salaires du plus grand nombre connaissaient une dynamique haussière, ça ne choquerait pas autant. Je pense que ce qui choque profondément les gens, c'est de voir ces chiffres astronomiques alors que eux ont eu des augmentations de salaire inférieures à l'inflation. Donc effectivement, la question que cela pose, c'est, mais quelque part, bien évidemment que je trouve ces chiffres exorbitants et complètement ahurissants, mais encore une fois, si derrière on avait une politique de revalorisation salariale qui profiterait au plus grand nombre...
Comme chez Michelin par exemple.
Oui. Mais le discours du patron de Michelin, je le trouve, alors sans doute que je connais pas l'entreprise aussi bien que mes camarades de la CGT Michelin, mais en tout cas ce discours-là sur l'idée que le SMIC n'est pas un salaire décent, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et effectivement, moi, comparativement, il y a quand même des entreprises, tu l'as dit d'ailleurs, qui dans lesquelles l'écart salarial est beaucoup moins important. Oui. Mais ce qui compte, c'est pas finalement de créer des polémiques creuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les gens peuvent vivre mieux. Donc, quelle est la politique salariale effectivement que nous menons pour le plus grand nombre?
Ça dégonflera... Alors, a priori, dans les grands groupes, et tu le sais, Benjamin, c'est pas là où les salariés sont les plus maltraités. Je parle des salariés des groupes du CAC 40. A priori, ce sont les salariés qui ont le plus d'avantages en France. Ça a beaucoup plus d'avantages quand t'es salarié de Total,
stabilité incroyable,
que quand t'es salarié d'une petite entreprise.
Mais pour autant, donc, je pense que derrière, lorsque ce sujet vient entre les mains du gouvernement, je suis sûr que le gouvernement va réagir à nouveau, d'ailleurs il l'a déjà fait sur cette question-là, la question qui doit à mon avis l'obséder, et ça n'est pas le cas, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer une dynamique haussière pour les salaires pour le plus grand nombre.
Donc t'es quand même pour un plafonnement,
Je suis pour un plafonnement, mais je suis surtout pour que effectivement quand on a des augmentations de ce type, elles profitent non seulement aux salariés de l'entreprise, mais que on s'en sert pour se dire que la question des salaires, c'est quelque chose de fondamental en France, et ça n'est pas le cas dans les politiques publiques.
Juliette Briand, ça vous choque, vous, qu'un patron puisse gagner 400 fois le salaire moyen de son entreprise?
Alors, ouais, moi, évidemment, je suis d'accord avec rien de ce qui a été dit précédemment par mes camarades.
Quelle surprise.
Un patron dans un groupe privé, il est rémunéré à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez dit, la plupart de leur salaire, de leur rémunération, elle est variable. Ça veut dire qu'on leur a fixé des objectifs et que ces objectifs ont été atteints et donc on les paye en fonction. Le PSG, je ne pense pas qu'il paye Kylian Mbappé avec un plafond par rapport au petit comptable qui travaille lui aussi pour PSG. On gagne dans la vie ce qu'on rapporte. On a une valeur sur le marché. Voilà. Personne ne va dire que Kylian Mbappé, il faut réduire son salaire. Et ben, le PDG de Carrefour, c'est pareil. La seule chose que vous allez réussir à faire en faisant encore une fois intervenir l'État et plafonner je ne sais quoi, comme si on était en Chine communiste et qu'on ne pouvait plus laisser les entreprises privées choisir de leur propre politique de rémunération, c'est que tous les PDG, les meilleurs de France, ils vont partir. Ils vont partir aux États-Unis où là les prix s'envolent et où les salaires sont démentiels par rapport à la France déjà. Et ils vont tous partir. Mais comment les retenir? Comment les retenir? Moi je leur en voudrais pas. Voilà. Donc voilà, continuer à mettre des règles et à intervenir, et c'est exactement ce qui va se passer. Les meilleurs partiront et on se retrouvera avec les 3 jojos qui restent.
Non, mais si tu plafonnes, si tu plafonnes de 1 à 100 par exemple, et que tu augmentes ton salaire moyen de ton entreprise, t'as pas de problème. En fait, le problème, c'est les très hauts salaires et les très bas salaires. Les salaires bas étaient plus hauts, t'aurais pas cet écart.
D'accord, mais c'est aux entreprises de gérer leur politique de rémunération, et les employés ont le droit de revendiquer. D'ailleurs, ils ont le droit de revendiquer. Ils ont le droit de partir aussi, de travailler pour quelqu'un d'autre s'ils sont pas contents de la rémunération. Moi, j'ai toujours été pour. Si j'avais une entreprise, je serais pour une politique de rémunération haute pour avoir les meilleurs, les plus motivés. Mmh. Je connais des entreprises qui le font, ça se passe très bien. Voilà, vous êtes pas obligé de travailler pour des entreprises non plus, en fait.
D'appels au standard, et je vais commencer tout d'abord avec Stéphane qui nous appelle de Poisier et qui est chef d'entreprise. Bonjour Stéphane.
Bonjour Estelle.
Vous n'êtes pas chef d'entreprise du CAC 40, Stéphane?
Oui, non, je suis pas patron du CAC 40. J'aimerais bien, si j'en avais la possibilité, mais non, c'est pas le cas.
Stéphane, ça vous choque ces salaires ou vous vous dites, en fait, c'est mérité?
C'est totalement mérité.
D'accord.
Totalement mérité. Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'estime qu'à partir du moment où, en effet, la personne qui est juste auparavant, je dis pas ça parce que je suis patron, moi je suis tout petit patron. L'entreprise qui fait 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, je suis très loin du CAC 40.
Oui.
Mais
c'est pas mal quand même.
Oui, c'est bien, non, mais je ne plains pas. Moi, c'est à la force de mes poignets que je suis parti de zéro et on fait 4,5 aujourd'hui. Donc, mais à la force de mes poignets. Donc, moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un soit payé 400 000 fois, 2000 fois le salaire moyen français. À partir du moment où son entreprise est performante, qui crée des emplois, qui crée de la valeur ajoutée, que lui-même, avec sa fortune, crée aussi des emplois et de la valeur ajoutée, c'est très bien. C'est très bien le niveau, ça élève le niveau général. Ça élève le niveau de l'industrie, ça élève le niveau des salariés. Ça, voilà, je prends un exemple. Moi, c'est moi dans ma modeste entreprise qui fabrique des étiquettes. Mes salariés, ils ont eu la prime Macron. Et s'ils n'avaient pas eu la prime Macron, ils n'auraient pas pu avoir des primes aussi violentes. Parce que quand vous posez des primes à 6 000 euros nettes, défiscalisées et déchargées, ça, on n'en parle pas. Par contre, quand vous continuez à poser la CSG-RDS, et puis que la CSG-RDS, quand vous la regardez tous, là, ceux qui écoutez, vos invités, les auditeurs, quand vous prenez votre bulletin de salaire, puis vous allez regarder la ligne CSG-RDS, qui représente quasiment 20% de votre brut. Bah là, vous vous dites, mais la CSG-RDS, ça sert à quoi? Ça sert à financer le système social, mais est-ce qu'on en a besoin du système social quand on est au plein emploi?
Non, mais on n'est pas tout à fait au plein emploi, ça ne nous a pas échappé, Stéphane.
On n'est pas très loin.
Bah, le chômage se dégrade un petit peu quand
oui,
même.
Oui, il se dégrade, on n'est plus à 9%, il faut arrêter de prendre les Français.
Non, c'est sûr, non, mais vous avez raison.
Aujourd'hui, on arrive à trouver personne, on ne trouve pas de salariés, on n'arrive pas à embaucher parce que les gens, ils sont bien chez eux. Il y en aura toujours une partie incompressible qui n'iront pas travailler. Mais en attendant, il y en a une bonne partie aujourd'hui qui pourrait les travailler et qui pourrait gagner leur vie aussi. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, il faut arrêter de véhiculer des informations qui sont fausses. Aujourd'hui, les patrons, petits, moyens et artisans et agriculteurs ne trouvent pas de salariés. Pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux et qu'ils sont aussi bien payés chez eux.
Mais Stéphane, je suis désolée, je peux pas vous laisser dire ça parce que c'est pas. C'est pas une majorité. Je veux dire, la majorité des gens, ils travaillent, Stéphane. Je suis désolée. Hein. Là, vous parlez d'une petite minorité. Soit les chômeurs, la grande majorité des chômeurs, très grande majorité cherchent du travail, mais la majorité des Français, ils travaillent. De toute façon, je parle pas des chômeurs. La majorité des Français, ils travaillent. Ils ont juste envie de gagner leur vie dignement. Et c'est vrai que. Alors après, moi, je trouve ça un peu idiot d'aller comparer un employé, un ouvrier non qualifié à un patron. Je veux dire, c'est pas le même boulot, ça n'a rien à voir, etc. Mais c'est vrai que savoir qu'un patron gagne, effectivement, comme celui de Stellantis, qui va gagner 40 millions d'euros dans l'année, c'est vrai que ça paraît fou, même si les employés de Peugeot doivent être très bien payés. Et à un moment, moi, je comprends qu'il y a des salaires qui choquent. Et effectivement, s'il y avait un plafonnement de 1 à 100, je pense pas que ça changerait la vie des grands patrons, ni des petits employés d'ailleurs. Mais enfin, bon. Voilà, ça mettrait quand même une certaine décence.
Bien sûr que si, ça changerait tout. Alors là, je peux vous le dire.
Mais tout dépend. Ça fait
20 ans qu'on nous dit qu'ils vont partir et que personne ne part.
Si ton salaire moyen dans l'entreprise, il est de parce que le salaire moyen, t'as aussi le salaire des cadres, etc. Tout le monde est compté. Bon, s'il est de 5 000 euros dans l'entreprise, ton salaire moyen, si tu fais 100, genre le patron il gagne 500 000 euros. J'entends, hein. Les grands patrons ils gagnent plus que ça. Mais bon, c'est quand même.
C'est pas
ridicule, quoi.
Déjà, c'est pas.
Gagner 500 000 euros par mois, c'est pas ridicule.
C'est pas en allant plafonner un salaire de patron à 30 millions au lieu de 40 millions que vous allez faire augmenter le salaire des employés.
Mais c'est déjà ça.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Tu veux que je te dise ce qui ferait changer les choses? Parce que au-delà, le PDG, finalement, à la fin, dans un certain nombre d'entreprises, c'est rien d'autre qu'un le premier des salariés. Mais au-dessus, il y a les actionnaires qui brassent un pognon monstrueux.
Mais les actionnaires, c'est les propriétaires qui prennent tous les risques.
Je ne peux pas te laisser dire l'idée que finalement la France serait une sorte de soviet où les pauvres, où les riches seraient véritablement spoliés. C'est le pays d'Europe occidentale où la capitalisation boursière est la plus exorbitante. Nous avons pété le record du CAC 40. Donc au-dessus se pose la question des dividendes, du rapport dividende-travail, et là c'est un véritable scandale.
Mais il n'y a pas de scandale quand t'es propriétaire et que tu as investi dans une entreprise, que tu as pris tous les risques.
Les inégalités, c'est normal
que tu sois rémunéré, c'est comme ça que ça marche.
Et les inégalités sociales, toi ça ne te parle pas.
crédit.
Un dividende, un CAC 40 qui est exorbitant, mais, et derrière des gens qui crèvent la bouche ouverte, mais, visiblement c'est la loi naturelle
mais
des
non,
choses.
Mais non, c'est des gens
non, c'est pas la loi naturelle
toi,
des choses.
Aussi des
il y a la redistribution des richesses.
Mais est-ce que moi j'ai d'autres solutions que toi? Tout simplement, on n'a pas la même vision des choses.
Non, mais oui, tu dis aux gens, barrez-vous. Si vous n'êtes pas contente du salaire, barrez-vous. C'est une sacrée solution, ça.
Alors, je voudrais qu'on prenne en ligne Pascal qui nous appelle d'Annecy. Et Pascal, il est sans profession. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour. Oui, voilà. Ouais, je voudrais dire, il y a une question parallèle à votre question qu'il faudrait peut-être se poser en même temps.
Oui.
C'est que si on pense qu'il y a une relation de cause à effet du fait qu'il y a des ultra riches et des classes moyennes qui n'en sortent plus et qu'il y a des ultra pauvres, si on pense ça, oui, on peut se poser la question. Si on ne le pense pas, on laisse tomber, ça ne sert à rien. Parce que moi, je pense qu'il y a une relation. Et là, c'est, il faut vraiment stopper. C'est juste mathématique. Les finances, que ce soit françaises ou mondiales, il y a une enveloppe qu'on peut réguler, mais il y a une enveloppe. Si, si 90% des richesses, comme de plus en plus, appartiennent à que quelques personnes, ben les autres ne peuvent pas s'en sortir. Donc il ne faut pas donner l'argent aux pauvres. Il faut que le pauvre puisse s'en sortir par lui-même, par son travail. Mmh. Donc, bien sûr qu'il faut plafonner non seulement les salaires, mais il faut plafonner les revenus. Ça sert à quoi toute cette différence? Ça sert juste à appauvrir certaines personnes, les classes moyennes n'en sortent plus. Tout appartient à quelques personnes, à quelques groupes. Vous allez, un matin, vous allez chez Decathlon. Après, vous allez chez Tamaclou acheter du Lido. Vous allez dans un magasin boulanger acheter des ménagers. Vous allez manger chez Flunch. Après, vous faites vos courses à Auchan. Et vous allez chez Leroy Merlin.
C'est la famille Mullier.
Tous les bénéfices appartiennent, vont dans la même poche.
Oui, alors, certes, mais il faut aussi. Alors après, je vais me faire l'avocat du diable, Pascal, mais il faut aussi travailler des gens. C'est-à-dire que tous les groupes dont vous parlez. Combien ils emploient de personnes, les Mulliers?
Ils ont besoin des gens. Le jour où ils n'ont plus besoin de caissières, ça commence à faire, ils enlèvent des caissières. Le jour où ils n'ont plus besoin, ils enlèvent tout le monde. Voilà. Et ce ne sont pas. Moi, je connais les salaires de tous ces gens-là.
Oui, mais on a besoin aussi. On a aussi besoin de patrons en France. Je veux dire, les entreprises font un patron.
Il faut plus de patrons. Il faut qu'il y ait plus de patrons. Moi, j'étais dans le commerce. Dans le commerce, tu sais, j'aurais pas pu me développer. Voilà.
D'accord.
En pleine. J'étais en montagne. On a un micro-marché. Donc là, on y arrive. Mais tout est pris en bas. Tout est pris par la même personne. Donc le pauvre, il faut pas lui donner de l'argent comme ça, mais il faut qu'il bosse. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis, il faut qu'il soit patron. Il faut qu'il y ait plus de patrons.
D'accord.
Bernard Tapie disait que son seul objectif dans la vie, c'était de gagner de l'argent.
Oui.
Sa valeur, c'est de gagner de l'argent et de plus en plus, plus possible.
Il en a aussi beaucoup perdu. Non, mais j'entends, il en a aussi beaucoup perdu, Bernard Tapie. Ouais, il a pas terminé richissime non plus.
C'était un mec intelligent dans le business. Il était très, très intelligent. Par contre, humainement parlant, c'est impossible, quelque part.
C'est un autre débat. Mais merci beaucoup, Pascal. Je sais pas comment on est arrivé à Bernard Tapie, mais merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous. On a plein de messages également sur l'appli RMC, Paul.
Oui, Pierre nous dit, il ne faut pas plafonner les salaires des patrons. Moi, je suis salarié et ouvrier. Et c'est normal que le patron gagne plus que moi. Il a monté sa boîte et c'est lui qui gère sa société. Donc tout ça est bien normal.
Oui, c'est normal, mais peut-être pas mille fois plus, quoi.
Non. Ça. Mais c'est en tout cas l'avis de notre auditeur. Et Pierrot qui nous dit: taxer les grands patrons, leur imposer un salaire, c'est le retour de l'Union soviétique. Est-ce qu'on doit considérer cela est-ce qu'on doit considérer que cela a bien marché par le passé? Voilà.
Oui, il y a eu quelques erreurs de fait quand même. Notre invité sur ce débat, c'est l'économiste Pascal de Lima. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Pascal, ce serait possible de plafonner le salaire des patrons?
Ça me paraît un petit peu compliqué. On est quand même sur la loi des marchés. Effectivement, il y a les actionnaires. Hein. Après, c'est la théorie de l'agence. Hein. Comme disent les économistes, les actionnaires nomment un patron avec une rémunération. L'actionnaire a des responsabilités. Il est le premier aussi éjectable, hein, d'une certaine façon. C'est un petit peu comme Mbappé. Oui. S'il marque moins de buts, il va vite se retrouver dans une situation difficile. Et puis, en plus, on n'est pas les pires en France par rapport à d'autres pays.
Ouais, les États-Unis.
Voilà en gros ma réponse la plus directe.
Mais aujourd'hui, est-ce que c'est indécent de savoir qu'un patron gagne 1453 fois le salaire moyen de ses employés? C'est vrai qu'on se dit, peut-être que s'il gagnait 1000 fois, il pourrait en reverser un peu, quoi.
Bon, moi, je pense que c'est pratiquement un sujet de conviction politique, de façon dont il faut créer les richesses dans une société. On voit bien qu'il y a une opposition politique. Moi, je dirais oui et non. Bon, d'une certaine façon, on doit peut-être pas encadrer, peut-être réguler. Il y a des arguments autour de cela pour dire qu'une rémunération très élevée peut porter préjudice aussi à un certain nombre de d'investissement d'avenir. Hein. C'est un gâteau quand même, le chiffre d'affaires, en fait. Donc, vous ponctionnez une partie aussi des ressources pour des usages qui pourraient être plus collectifs, on va dire, dans un contexte tendu aussi sur ses propres salariés. Hein, lorsque les salaires des propres salariés n'évoluent pas, bon, et qu'il y a même une divergence de parcours en termes salarial, bon, on peut se poser des questions, et surtout s'il n'y a pas de résultat économique pour l'entreprise. Maintenant, d'un autre côté, comme je l'ai dit, d'abord, ce sont les actionnaires qui drivent la plupart du temps. Ensuite, il y a cette responsabilité, les talents qu'il faut être capable de rémunérer, ne pas faire fuir nos patrons à l'étranger, évidemment. Si l'entreprise, finalement, y trouve aussi leur compte, pourquoi est-ce que toutes nos multinationales seraient des méchantes entreprises où vous avez cité Michelin avec le salaire décent, mais il y en a d'autres, hein, où il y a des mécanismes d'intéressement, etc., où les salariés trouvent leur compte. Et en plus, les multinationales font de nombreux investissements d'avenir pour transformer l'organisation, aller vers le monde de demain, les métiers de demain. Donc, ma conclusion, c'est qu'il faut trouver une cohérence d'ensemble, un équilibre entre toutes les parties prenantes, et puis éviter de mettre les uns contre les autres, comme d'habitude.
Ça, je suis d'accord, Pascal Denima, il faut que les patrons soient très bien rémunérés, il n'y a pas de problème avec ça. Après, ce qui peut paraître choquant, c'est en fait, quand on sait que sur 3 ans, les patrons ont été augmentés de 27% et les employés de 9%, il y a quand même un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on pourrait au moins aligner, évidemment que 20% pour un patron, c'est plus que pour un salarié, mais aligner, je veux dire, le pourcentage pour tout le monde. C'est-à-dire que si le grand patron il s'augmente de 20%, tout le monde est augmenté. En tout cas, l'enveloppe est de 20%. Après, il y a des gens qui sont augmentés de 40%. Et voilà.
C'est un tout petit peu directif parce que, comme vous l'avez dit, on a augmenté 30% les patrons et de 9% les autres. Mais on n'a pas baissé les salaires des autres. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas possible de baisser les salaires. C'est
qu'il y a des responsabilités, des critères qui sont différents et que peut-être si certains gagnent en vitesse un peu plus que d'autres. Néanmoins, dans l'exemple que vous citez, pour moi, c'est un exemple équilibré, surtout qu'on voit que les hausses de salaire, en particulier en 2023, indépendamment des patrons, ont quand même augmenté légèrement plus en moyenne, encore une fois, évidemment, cas par cas, vous allez trouver des contre-exemples, mais en moyenne, un peu plus que l'inflation.
Oui, donc, c'était 4,9.
Ils restent en trajectoire compatible les uns et les autres, si vous voulez.
Merci beaucoup Pascal Denima en tout cas d'avoir été avec nous, et ce sont nos auditeurs et nos téléspectateurs qui vont trancher. Paul, est-ce qu'il y a une large majorité qui se détache?
Pas vraiment. Faut-il plafonner le salaire des patrons? Vous répondez oui, mais pour entre guillemets seulement 55% d'entre vous. C'est assez partagé.
Mais oui, c'est un faible pourcentage. Je pensais franchement qu'on allait avoir du 80-20, et c'est assez étonnant comme quoi on aime quand même les patrons aujourd'hui en France.